France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et ce soir, nous recevons l'auteur, dessinateur et scénographe François Skuyten. À 19h20, affaire en cours, l'essayiste et romancière John Didion est morte il y a quelques jours. Antoine Cazé, professeur à l'Université de Paris, expliquera à Marie Sorbier en quoi l'œuvre de John Didion a marqué la littérature américaine du XXe siècle. À 19h50, affaire à suivre, en compagnie ce soir du chef d'orchestre David Reyland. Le tout réalisé par Cécile Lafont avec Marie-Claire Oumabadi et Ryan Berkey à la prise de son. Bonsoir François Skuyten.
Bonsoir.
Deux publications récentes, Mars avec Sylvain Tesson aux éditions Louis Vuitton et Bruxelles, un rêve capital avec Benoît Peters chez Casterman. Et puis il y a votre participation à la carte blanche, le chantier de Notre-Dame en bande dessinée, dont nous parlerons. Autant de bonnes occasions de vous accueillir pour revenir sur votre parcours, vos sources d'inspiration, vos méthodes de travail, mais votre œuvre est si pléthorique, et je ne m'en plains pas, qu'on pourra que s'arrêter sur certains de ces aspects. Alors, plutôt que d'essayer de suivre un fil biographique, je me suis dit que peut-être une façon d'entrer dans votre travail pouvait se faire de façon peut-être un peu oblique, en interrogeant et évoquant quelques-unes de vos passions, voire de vos obsessions, François Skuyten. Alors, pour commencer, vous faire entendre une voix, celle de Jim Jarmusch, que j'avais rencontré avec Laura Adler en 1989, ce qui ne nous rajeunit pas au moment de la sortie de Mystery Train. Écoutez-le.
J'aime beaucoup les trains. J'adore le son du train qui passe, surtout la nuit, quand tout est calme. Quand j'étais enfant, il y avait un train, pas très près de chez moi, peut-être à 2 kilomètres, mais je l'entendais passer toutes les nuits. Et c'était comme si mon imagination sautait dans le train et s'en allait avec. Je me demandais quel genre de train c'était, qu'il y avait dedans, où ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette heure de la nuit. Tout ça me semblait être une aventure. Une fois, j'ai sauté dans le train, et je suis resté pendant 7 ou 8 kilomètres. J'ai sauté, parce que j'aurais fini dans un autre état. Vous savez, j'avais vu ça dans les films, les gens qui sautent dans les trains. Il aurait fallu que je le fasse aussi.
Mais
non seulement physiquement, mais figurativement, le train transporte votre imagination, vos émotions.
Alors vous êtes férovifile, François Skuyten. Quels sont les symptômes de ce mal étrange?
Alors c'est une passion très ancienne, un peu comme Jim Jarmusch, avec le fait d'avoir effectivement ressenti ça dans l'enfance. Et ben, il y avait une ligne à vapeur qui fonctionnait encore pas très loin. Et puis, il y a évidemment le fait que ce sont des machines extrêmement graphiques, extrêmement puissantes visuellement, et qui inspirent et qui donnent ce goût du voyage, du fait de partir avec ce bruit, ce son. Bon, évidemment, la vapeur, qui est une extraordinaire mise en scène. Ils transportent leurs effets spéciaux avec eux.
Alors, vous avez dessiné des centaines, peut-être des milliers de trains dans votre vie, mais il y a eu La Douce,
oui,
en 2012, consacrée à une locomotive à vapeur, mm-hmm, que vous avez découvert, entreposée dans un hangar, mais vous en avez fait un album en solo, celui-là, mm-hmm, en noir et blanc. Ce choix, il était évident, du noir et blanc?
Oui, il fallait que ça sente la fumée, qu'on voit le charbon, qu'à la limite le livre, on en sorte avec les mains un peu noires. Donc j'avais fait des trajets dans les chaudières, à côté des chaudières des locomotives à vapeur, pour ressentir tout ce qu'on pouvait vivre quand on dirigeait ce genre de machine. Et oui, c'était une évidence que ça devait être en noir et blanc. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc. Mmh. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le noir et blanc. Mais à chaque fois, c'est les récits qui décident.
Ouais, parce que avec cette vieille loco, vous imaginiez l'avenir. C'est aussi une des choses dont on va parler souvent. L'anticipation, pour vous, elle se nourrit forcément du passé, François Skuyten.
Ah oui, certainement. Je trouve que, d'abord, cette machine, elle était extraordinaire parce qu'elle était construite en 1936. 1945. Elle a été mise en service en 1939, juste avant la guerre. Donc, elle a effectivement pas eu le développement qu'on aurait pu espérer, parce que l'après-guerre est très différent pour les vapeurs. Mais ce qui était extraordinaire, c'était qu'elle avait l'air d'appartenir au futur, et encore aujourd'hui. Je l'ai mis au centre, au cœur du Train World.
Train World, vous êtes le scénographe, c'est le musée du train. À Bruxelles, ouais. Forcément, ça pouvait être que vous qui vous occupiez de ça.
Ah ben, j'ai quand même dû passer à travers les fourches codines d'un appel à
projet.
Oui.
Il a ouvert en 2015. C'était quoi le parti pris, vos partis pris les plus importants pour la conception de cette scénographie ?
Ne pas faire un musée. Et faire un opéra ferroviaire. Je l'ai vendu comme un opéra ferroviaire. Parce que la SNCB n'avait pas, et c'était un avantage, n'avait pas d'expérience. Ils avaient peur du mot musée, ils avaient peur de ce que ça représentait. Et je leur ai dit, on va faire un spectacle. On va plonger les gens au cœur des machines, on va les entendre, ça va être des stars, on va les éclairer comme des divas. Et ça les a séduits. Mais j'ai quand même dû batailler parce que quelle est la nécessité alors que les gares sont sales, que les trains arrivent en retard. Et donc j'ai dû batailler. Et maintenant c'est une évidence parce que le lieu a vraiment pris tout à fait sa place. Et il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver autour de ce train noir. C'est mon enfant chéri, je dirais, parce que j'y ai passé tellement de temps. Je vivais juste à côté à cette époque-là. Donc j'allais fermer les grilles quand ils oubliaient. J'étais vraiment lié à ce projet d'une façon très organique. Et encore aujourd'hui, je continue à suivre les expositions temporaires qu'elle reçoit. Là, il y en a une sur l'Orient Express.
Alors, les voyages aussi, on va dire, c'est une autre forme de passion, différents types de voyages.
N'ayons pas peur des belles et hautes montagnes. Grimpons, 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 grimpons. Si nous tombons, pas de poux, mais c'est la mort. Effroyable, mais qu'importe, nous avons eu la joie de grimper. Et n'ayons pas peur des belles et hautes montagnes. Grimpons, 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 grimpons. N'ayons pas peur des belles et hautes montagnes. Grimpons, 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 grimpons. Si nous tombons, patapou, mais c'est la mort. Effroyable, mais qu'importe, nous avons eu la joie de grimper. N'ayons pas peur des belles et hautes montagnes. Grimpons, 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 grimpons.
There, my lord, is where we must go. The pass of Antuco. Then follow the parallel until we find Captain Grant.
Jolly good trick to throw a bottle into the ocean from up there, I must say.
Ah, but could you not put the bottle into a river? And would it not flow down to the sea, eh?
Grandpa, 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 grandpa!
No, no, grimpons.
Grimpons.
That means let's climb. It is the French recipe for the good life. Whatever you want to do, don't be afraid to do it for fear of failure.
C'est Maurice Chevalier qu'on vient d'entendre, François Skoyten, dans le film de Robert Stevenson, Les Enfants du Capitaine Grant, sorti en 1962, adaptation de Jules Verne. Voilà donc une autre de vos grandes passions. Ouais. Venue très tôt, puisque enfant, insomniaque, votre mère vous lisait de la Terre à la Lune pendant des heures, paraît-il.
Oui, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, c'est un personnage et c'est une œuvre qui me fascine, puisque je la mets un peu en scène à Amiens. Avec des murs lumineux là devant la gare, et bientôt une immense pieuvre Nautilus. Donc c'est l'Octopus Garden, c'est qui vient animer cet espace qui était assez minéral. Et c'est vrai que c'est une façon de montrer que l'œuvre de Jules Verne s'est toujours réinventée en fait. Déjà en son temps, il y avait des spectacles extraordinaires, le tour du monde en 80 jours, c'était avec des éléphants qui arrivaient sur scène et lui-même, il accompagnait ça, il était très très heureux de voir que son œuvre comme ça s'adaptait à différentes formes. Et donc il y a eu bien sûr les films et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses qui montreront que cette œuvre est vivante.
Et puis pour faire le lien entre encore une fois la passion des trains et Jules Verne, je précise aux auditrices et auditeurs qui ont pu emprunter le métro parisien que la station Arts et Métiers vous qui l'avez réinventé avec cet aspect du sous-marin Nautilus à l'occasion du bicentenaire du musée. Moi j'adore cette station. je voulais vous remercier pour l'émerveillement qu'elle procure, mais vraiment à chaque fois, ça fait quand même un certain temps maintenant que vous avez fait cette station, Françoise Coïtaine, mais c'est vraiment un bonheur. Mais on entendait Maurice Chevalier dans son anglais parfait. Quoi que tu fasses, n'aie pas peur de l'échec. Ça, c'est ce que le disait donc le professeur Paganel aux enfants du capitaine Grant. C'est une des phrases qui forge un caractère. Votre père, vous, était architecte. Il n'aimait pas, paraît-il, beaucoup la bande dessinée. Il aurait voulu que vous soyez peintre. Il vous a d'ailleurs appris à déchiffrer la composition des tableaux, vous amener au Louvre, dans les villes italiennes. Il vous offrait, paraît-il, une boîte d'aquarelles à Noël. Mais dire... Choisir votre voie, c'était quand même une affirmation, parce que je crois que vous avez un frère et une sœur architecte, comme votre père.
Mais... Et un beau-frère.
Et un beau-frère, bon. Mais vous, non.
Non, ça suffisait. Je trouvais qu'il y en avait assez. Mais par contre, je reste évidemment marqué par cette empreinte familiale. Mon père ayant été très présent dans ma formation, dans le regard que je porte, je crois qu'il a essayé de mettre dans ses enfants toute une série de germes, de pousses, et beaucoup dans l'apprentissage apprendre à regarder, apprendre à décrypter, à analyser. Et donc, quand on voyageait avec lui, on était toujours avec des carnets de croquis, des carnets de dessins, des aquarelles, et c'est vrai qu'il était moins sur les plages et plus dans les musées.
Oui, mais il y a cette passion de l'architecture, qui est aussi une de vos grandes passions, architecture et urbanisme, il faudrait dire, des villes réelles et imaginaires. Côté ville réelle, Bruxelles a évidemment une place à part, comme le montre encore une fois ce nouveau livre, Bruxelles, un rêve capital, sorti il y a quelques semaines chez Casterman et co-signé avec Benoît Peters, votre complice depuis les années au collège Don Bosco, ça date. Bruxelles, c'est une source inépuisable pour vous, Françoise Coïtaine?
Oui, parce que d'abord, c'est la ville où... Je suis né, je l'ai vu se transformer, j'ai vu aussi les rêves que mon père avait pour cette ville, qui parfois était un peu effrayant, parce que les années 60 ne sont pas sans doute la période la plus respectueuse du patrimoine architectural. Et on a toujours fait beaucoup de dégâts à Bruxelles. C'est une longue histoire, c'est pas seulement concentré sur les années 50, 60, et 70. Depuis très longtemps, on est assez léger sur la façon de respecter cette histoire, et donc...
Ces dégâts, ils avaient notamment nourri Bruxelles, le cinquième tome des Cités Obscures.
Oui, on avait fait un livre, Benoît et moi, sur cette espèce de passion du progrès, cette espèce de folie prête à tout sacrifier pour être dans le mouvement, d'être... Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours fascinés. C'est un pays qui est jeune, c'est un pays qui sans doute est fait comme ça d'influences diverses, et qui a sans doute... Bruxelles a été... un peu en difficulté pour défendre ce patrimoine depuis très 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 longtemps. Et on a vu ça, Benoît et moi, sans tout comprendre quand on était gosse, mais en même temps en recevant, en étant pris par toutes les contradictions que cette époque générait, c'est-à-dire le désir de ces années, les Trente Glorieuses, comme on les appelait, et en même temps de voir beaucoup de choses qui se démolissaient, de voir des beautés, de voir... On voyait chez les antiquaires des magnifiques cheminées, des portes splendides, tout ça passait comme ça. Et là, pour un dessinateur, il y a un sentiment de tristesse, parce que c'est une telle richesse d'artisans, c'est tellement... On a eu à Bruxelles sans doute les plus belles maisons du monde, je crois. Entre 1890 et avant la Première Guerre mondiale, il y a un florilège de talents d'architectes, Horta, bien sûr, Van de Velde et bien d'autres, Guimard. Ben, Guimard, c'est à Paris, mais en quart. Et donc, on a là un moment rare dans l'histoire de l'architecture. Hélas, je pense que les Bruxellois n'en prennent pas tout à fait conscience.
Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Non.
Hein, mais vous avez raison.
Oui, mais le lapsus est forcément un peu révélateur. Mais ce Bruxelles, un rêve capital, c'est un ouvrage d'un type très, très particulier. Alors, vous l'avez annoncé il y a 2 ans, vous arrêtez la bande dessinée. On en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas un livre du tout de bande dessinée. C'est quoi? C'est un lien d'amour à Bruxelles. Rappelez-vous de ce qu'a pu être cette ville, ce qu'elle est encore aujourd'hui, ce qui peut être encore sauvé et ce que pourrait être demain?
Oui, en fait, on s'est rendu compte que on avait envie de lui déclarer toute l'affection, toute l'empathie, tout absolument irrationnel qu'on a pour cette ville qui parfois nous agace, nous met en colère et en même temps nous fait fondre. Cette ville paradoxale, brouillée, Mais
un peu illisible hein, quand on n'est pas de la ville.
Tout à fait.
Je sais jamais où je suis moi quand je suis à Bruxelles.
Ah ben moi non plus. Je me perds encore et peut-être que j'aime ça à force avec le temps. Peut-être c'est de lâcher prise et de découvrir que à l'image du monde qu'il faut prendre du temps pour la décrypter et qu'alors il y a des merveilles qui se révèlent.
Alors, il ne faut pas croire non plus que Françoise Cailletel, ceux qui vous connaissent, est un passéiste. On va voir que le futur vous intéresse au combien. Mais vous êtes toujours fasciné par Brasilia pour aller à quelques milliers de kilomètres d'ici.
Oui, parce que c'est un moment aussi rare donné à des
unique,
architectes.
Unique, quasiment.
Oui, unique. Une capitale qu'on construit dans un presque désert. Hein. Et le geste, le premier geste, c'est cette croix qui va construire tout ce projet. Il y a là quelque chose qui persiste quand on visite cette ville. Il y a une espèce d'utopie. C'est assez rare.
Mais d'une façon plus générale, et on l'évoquera évidemment dans la suite de notre entretien, l'architecture, c'est aussi un outil pour le dessinateur que vous êtes, pour structurer la planche.
Oui. Pour structurer la planche et pour structurer le monde, pour créer les tensions avec les personnages, pour créer l'atmosphère, pour donner et l'angoisse et parfois et le plaisir et le parce que en fait une forêt est une architecture végétale mais c'est aussi une architecture et des grottes, les canyons sont des remarquables lieux, des espaces. En fait, c'est l'espace qui me passionne et de voir comment il nous impressionne, comment il nous construit et comment aussi on le façonne.
On va voir comment vous le façonnez dans quelques minutes en poursuivant cette conversation. Auparavant, comme chaque soir à 19h20, on retrouve Marie Sorbier pour Affaires en cours.
L'affaire en cours du jour, Joanne Didion, la littérature et l'Amérique. L'essayiste, romancière et journaliste américaine est morte à 87 ans il y a quelques jours. Elle est considérée, entre autres, comme la pionnière de ce que l'on appelle la littérature du réel ou le journalisme littéraire. Antoine Cazé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Paris, spécialiste de la littérature américaine. Pourriez-vous nous dire quelle place occupe l'œuvre de Joanne Didion dans le paysage littéraire américain, selon vous ?
Eh bien, je dirais en premier lieu que c'est une place très originale. On a essayé de la classer, vous l'avez mentionné, vous avez parlé du journalisme littéraire. On l'appelle aussi nouveau journalisme, un new journalism. Ce n'est pas vraiment un mouvement, mais une espèce d'école, un petit peu, d'écriture, à qui tient à la fois du journalisme et de la littérature, qui a été portée notamment par Tom Wolfe. On pense aussi, bien sûr, à Hunter Thompson, à des gens de la fin des années 50, début des années 60, jusqu'aux années 70. Et Didion, elle a été un peu raccrochée, je dirais, à ce mouvement-là, mais je ne suis pas entièrement sûr qu'elle en fasse complètement partie. Sa position est quand même très originale. Déjà, en tant que femme, c'est un mouvement qui est très associé à des écrivains hommes. En tant que femme, je pense qu'elle se situe un petit peu ailleurs, un petit peu à part. Je dirais qu'elle est moins du côté du journalisme et plus du côté de la littérature. On a beaucoup dit que c'était une styliste et c'est extrêmement vrai, même si elle a commencé à écrire dans Vogue, hein, quand elle a remporté ce fameux concours quand elle était encore étudiante en Californie et elle a décidé de partir à New York. Donc on l'associe au journalisme, mais je pense que c'est un peu à tort parce qu'elle est ailleurs, elle est beaucoup plus dans l'essai, dans une écriture fouillée, dans une attitude qui, évidemment, elle emprunte au réel. Souvent, ses essais s'appuient sur des anecdotes, hein, des anecdotes parfois un peu bizarres, parce qu'elle avait un goût pour le bizarre, pour l'étrange. Donc, elle est très ancrée dans un réel, mais en même temps, c'est juste un prétexte de départ et elle s'éloigne très vite d'une chronique.
Mais quelle Amérique a-t-elle raconté, justement, dans ses romans et dans ses chroniques ?
Ce qui est le plus marquant pour moi, c'est ce qu'elle a pu dire sur la contre-culture américaine. Bon, elle vient à l'écriture dans ces années 60, et elle est très vite associée à ce milieu de la contre-culture, d'abord par sa vie personnelle. Hein. Bon, elle épouse John Gregory John, elle habite en Californie, elle reçoit chez elle tout un tas de célébrités, mais elle a écrit sur cette contre-culture, mais d'une façon tout à fait originale, ni dans la géographie, ni dans le suivisme, ni dans une critique trop excessive, mais elle y a perçu quelque chose d'emblée d'assez noir, d'assez négatif. Je pense que c'est une moraliste avant tout, hein, je la décrirais comme ça. Et on voit bien dans le très beau film que lui a consacré son neveu, là.
Oui, oui, le documentaire qui est disponible sur Netflix.
Voilà, le documentaire qui s'appelle « The Center Will Not Hold ». Elle parle de l'affaire Manson, par exemple, à un moment donné. Et le commentateur, je ne sais plus si c'est le commentateur ou elle, ou les deux, qui voit là un tournant très sombre, finalement, de cette contre-culture. Et je crois que c'est là qu'elle était déjà, en fait. Elle était déjà dans cette noirceur, dans ce regard sur une Amérique qui vire un peu à la tragédie. Et j'étais frappé par un essai qui est sur la morale, hein, qui s'appelle « On Morality ». Un essai de 1965, donc ça précède quelques années, l'affaire Manson, et elle est d'une noirceur de diamant, je dirais, quelque chose de presque tragique. Hein. Alors aussi, bon, je dirais que évidemment, elle est originaire de Californie, hein, de Sacramento. On sait qu'elle est l'héritière d'une famille qui a survécu à la traversée tragique, ce qu'on appelait la Donner Party, hein, ce groupe de pionniers qui était parti, et puis une branche s'est séparée, est arrivé à destination, l'autre malheureusement est mort tragiquement et il y a toute une histoire de cannibalisme là derrière. Enfin bon. Alors dans cet essai sur la moralité, hein, On Morality, elle parle de ça en fait. Elle parle de cette phase très sombre en fait de son histoire et elle commence avec une anecdote apparemment amusante. On a récupéré un corps sur le bord de la route dans les montagnes et une infirmière l'a transporté jusqu'à la morgue parce que c'était pas moral de laisser un corps pourrir et être à la merci des coyotes. Donc ça démarre comme ça et ensuite elle parle de la Donner Party et elle parle de cette phase très sombre de la moralité et de la morale. C'est un essai très étrange mais qui situe bien Didion, je trouve, dans une espèce de regard sans concession.
Elle a reçu le prix Médicis en France, mais comment est-elle perçue aux États-Unis par les lecteurs d'aujourd'hui ?
Certains écrivains qui sont bien connus aujourd'hui, comme par exemple Jay McEnany, ont reconnu l'influence qu'elle a pu avoir sur leur écriture. Je pense à partir d'un certain réalisme documentaire, aussi une vision, je l'ai dit tout à l'heure, absolument sans concession, sur le monde contemporain. Je pense qu'elle est lue pour son apport à cette analyse des années 60-70. Bon, il y a la géographie là est en cours puisqu'elle vient de mourir et elle est à chaque fois on lit la même chose. C'était une styliste extraordinaire. Bon, ok, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment lu ces textes?
Styliste extraordinaire parce que il faut peut-être préciser ça. Ce sont des romans assez courts parce qu'en effet, elle travaillait chacune de ses phrases et c'était ça qui lui importait littérairement parlant.
C'est ça. Je pense que la base de son travail, elle le dit très bien d'ailleurs, qu'elle a appris ça quand elle était à Vogue, hein, dans ses débuts. Elle avait une éditrice qui était absolument redoutable, peut-être plusieurs. Et donc, elle a appris que chaque virgule absolument comptait. Elle a appris à écrire court. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très percutant dans son écriture. Je dirais que ça tient à la fois à son choix de sujet. À chaque fois, elle introduit le thème d'un essai, par exemple, par un biais qui est tout à fait inattendu. Une anecdote qu'on n'avait pas vu venir. Et je pense que ce choix-là, déjà, va conditionner une espèce d'écriture assez ciselée où elle va aller directement à l'os de l'anecdote et à partir de là, développer une idée, un thème. Et je crois que c'est ça qui est particulièrement remarquable dans son écriture.
Je rappelle que les éditions Grasset publieront en février 2022 un recueil de chroniques pour tout vous dire. Merci beaucoup Antoine Cazé.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Françoise Cuyten et avec le choix musical de notre invité, Happiness is a Warm Gun des Beatles.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. Well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Yeah.
need a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Alors, c'est toujours la question terrible qu'on pose à nos invités, hein, choisir un morceau, une chanson. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce morceau des Beatles, François Skeleton?
Je suis un peu beatlemaniaque dépressif.
Aussi, notre passion.
Oui, et d'ailleurs je rêve de voir le film Get Back, là. Ouais. Mais écoutez, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est construit d'une façon tellement incroyable, ce morceau, avec un Lennon qui ose, qui se lance dans des... McCartney, d'ailleurs, considérait que c'était un morceau, un des plus beaux de Lennon. Il termine une face de double blanc, qui est un disque qu'il faut prendre sur une île déserte, comme on dit. Mais je le trouve tellement Lennon, tellement arraché, tellement, et en même temps, une espèce de moment de grâce. C'est rare, quand il est à ce point en maîtrise de sa voix, de son texte, de ses mélodies... C'est lui et c'est un groupe formidable.
Alors j'imagine que quand vous écoutez les Beatles, mais est-ce qu'il y a des musiques qui vous accompagnent quand vous dessinez ?
Oui, bien sûr. Alors là, je suis vraiment, ça va dans tous les sens, hein, entre Brian Eno, je peux écouter du Mahler, je peux écouter de... Ça va dans tous les sens, du Gérard Manset, bien sûr du Bachung. J'aime bien quand on me chante français, parce que ça... Du Brel, évidemment, je peux pas me couper. Mais oui, j'aime énormément ça. Alors c'est sûr qu'on revient toujours un petit peu à des choses qui vous ont nourri quand on était enfant. Hein. C'est pour ça que moi, le premier disque que j'ai acheté, c'était sans doute un disque des Beatles. Et donc, c'est sûr que ça reste un petit peu une Madeleine de Proust.
Vous évoquez Gérard Manset. Alors parmi les très nombreuses illustrations que vous avez réalisées au fil des années, il y a des affiches, il y a des sérigraphies, il y a des lithographies comme celle pour les chœurs de l'Union Européenne.
Oui, celle-là, d'ailleurs, je m'aurais mieux faite.
Ah, c'est vrai?
C'est pas une des meilleures. J'ai pas été tout à fait à la hauteur.
Bon, voilà, c'était une allégorie sur le thème de la musique et de l'Europe, ce qui est quand même pas très simple.
Ouais, c'était trop, très compliqué. Bon. Je suis pas sûr que je m'en suis bien sorti.
Bon, des timbres, poste pour la poste belge.
Oui, une vingtaine même.
Une vingtaine maintenant?
Oui.
Et puis, aussi donc un coffret Langbox de Gérard Manset. J'imagine que, évidemment, vous êtes très sollicité, François Skeleton, depuis très nombreuses années. Qu'est-ce qui vous fait accepter une commande ?
Je ne sais pas toujours pourquoi on fait les choses. C'est un peu de l'intuition et je suis un peu... J'ai toujours envie d'aller voir. J'ai toujours envie d'essayer.
Vous êtes curieux ?
Oui, curieux et parfois un peu con. Oui, d'ailleurs, c'était Duchamp qui disait bête comme un peintre. On pourrait dire bête comme un dessinateur, c'est-à-dire parfois, je sais pas, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir si ça marche, si mon idée fonctionne. Ça m'a d'ailleurs parfois valu de me tromper solidement. Mais parfois, il faut se tromper, il faut errer, il faut déchirer, il faut gratter.
Alors, parmi les à propos de commandes, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris est ravagée par un incendie. Le soir même, le président de la République est sur place.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français.
et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
Vous êtes l'un des cinq auteurs choisis pour Le Chantier de Notre-Dame en bande dessinée, Françoise Coyten. C'est en partenariat avec la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Alors les autres, il faut les citer, c'est Zeina Birached, Adjim Dangar, Sandrine Martin et Mathieu Sapin. Alors là, c'est carte blanche, c'est un peu plus compliqué. Carte blanche, ça veut dire que vous avez accès au chantier, vous pouvez rencontrer des gens qui travaillent à la reconstruction, voilà. Et puis les dessins, on peut les voir au fur et à mesure sur les palissades du chantier, sur le parvis de Notre-Dame. Comment ça s'est passé pour vous concrètement ?
On m'a proposé donc d'abord de découvrir ce chantier, et je dois dire que...
Ah ben, de nouveau, là on dit oui, tout de suite.
Voilà. J'ai pas pu résister. Alors on est vraiment habillé d'une façon très particulière, hein, pour être complètement isolé, ouais, éventuellement de la pollution au plomb qui a manifestement touché fortement l'espace. Et donc oui, c'est absolument, c'est un lieu incroyable. Incroyable de voir d'abord cette ruche, cette espèce d'usine, à réparer cet édifice, et de voir en même temps les chocs visuels que ça provoque entre ces échafaudages et en même temps ces arcs-boutants qui traversent tout ça. C'est un lieu improbable et fascinant. Et donc oui, j'ai eu du plaisir à essayer de rendre ce que pouvait représenter le fait de travailler dans un espace comme celui-là. Et particulièrement là, le grand dessin que j'ai fait, c'est autour des cordistes. Qui sont ces gens qui, au bout de leur filin, de leur corde, font tout un jeu, un ballet dans l'espace pour aller sécuriser, pour aller déposer les charpentes qui vont, disons, faire en sorte que les choses soient absolument, totalement safe.
Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que vous procédez ? Est-ce qu'il y a des croquis sur place ? Est-ce que vous faites des photographies ? Comment ça se passe ?
Eh ben, je m'imprègne parfois. Pour certains sujets, je fais des croquis. Ici, je ferai beaucoup de photos, mais surtout, je pense aux dessins que je peux faire. Et donc, les photos sont vraiment inscrites dans les points de vue que je vais travailler. Mais il en faut 30 pour faire un dessin. Parce qu'en fait, quand on dessine, on va dans les détails. Il faut qu'on comprenne comment les charpentiers ont travaillé, comment les tailleurs de pierre. Il faut entrer dans leur pensée, il faut entrer dans leur métier. Et ça, c'est un job que j'adore. C'est comme ça, m'immiscer dans l'intimité de ces métiers.
Mais quand vous êtes devant votre bureau, vous êtes dessiné quoi ? Assis, debout ?
Assis, je suis assis. Un peu à l'ancienne. J'ai des très grandes tables de dessin.
Ouais.
Très, très grandes, très belles, très anciennes. Et j'adore parce que c'est un lieu où on décolle. Il y a toujours plein de documentation, plein de choses autour. Et j'en ai bien besoin. J'ai besoin de me nourrir, de brasser pour commencer tout doucement à construire quelque chose qui ne sera qu'un dessin. Parce qu'il ne faut pas faire de la photo. Il ne faut pas courir après la photo, pas courir après la peinture, pas courir après. Il faut essayer de qu'est-ce que peut apporter un dessin sur le chantier de Notre-Dame. Et donc, c'est une question qui nous revient toujours. Quelle est la petite musique qu'on peut apporter ?
Alors, du coup, vous êtes curieux du travail de vos camarades, les quatre autres ?
Oui, ils s'en sont drôlement bien sortis. Ils ont été, eux, dans la bande dessinée, domaine que j'ai adoré pratiquer. Ils se sont mis au service. Du chantier en permettant de comprendre cette usine, cette machine extraordinaire.
Vous allez continuer à suivre le chantier ? D'autres dessins, d'autres sessions sont prévues ?
Oui, j'ai bien envie.
Ouais.
J'ai bien envie d'aller dans les forêts où on va couper les chênes, de voir comment, dans les carrières, où on va découper les pierres. Oui, ça me passionne parce que c'est les métiers qui sont au cœur de tout ça et c'est la fierté. Il fallait voir la fierté des gens là, qui travaillaient. C'était assez incroyable. C'était beau parce que c'était, il y a un an, je crois, il faisait assez frais. Il y avait une lumière très belle, très rosée sur la cathédrale. J'essayais de rendre ça. Et puis la scène qu'on voyait, tout Paris. Et puis, et de les voir heureux, quoi.
Autre voix, une dernière à vous faire entendre ce soir, Françoise Cailloutin, pour un coup double, si je puis dire. Je vais vous expliquer. En mai 75, François Rivière et Olivier Martial Thiéfain s'entretenaient avec Edgar Pierre Jacobs sur France Culture.
Une fois entré donc dans l'académie, j'ai tout de suite senti les maîtres qui m'influenceraient le mieux. Et parmi ceux-ci, il y avait Dürer, Holbein et Clouet, qui étaient donc des gens de dessin. Donc le dessin était rigoureux et alors parfait au point de vue esthétique. Alors, grâce ou chose à la bibliothèque de l'académie qui était très fournie, nous allions en dehors des cours feuilleter tous de magnifiques albums qui représentaient donc des planches à très grand format de Dürer et d'Holbein. Et je me rappelle, il est certain que ces gens m'ont influencé en dehors des artistes modernes, bien entendu.
Oui, Dürer, Holbein, enfin, c'est toute l'influence germanique finalement. Oui.
Oui, avec Clouet, Clouet aussi, mais il paraît d'ailleurs que Clouet était flamand et qu'on disait Clout, d'ailleurs.
Oui.
Donc, c'est cette espèce de... C'est le dessin rigoureux.
La rigueur, oui.
Et puis colorié, enfin. Il y a toujours eu, et je sens cette influence en moi également, entre les peintres de cette époque, il y avait une influence d'un côté italienne et de l'autre côté flamande. Et moi-même, je m'aperçois que je souffre du même complexe. Je suis tiraillé entre la rigueur du trait et en même temps la liberté d'expression. C'est-à-dire, j'aime le lavis, par exemple, mes dessins que je ferai plus tard sur l'illustration de La guerre des mondes. Oui. Voilà une façon de dessiner qui m'intéresse beaucoup plus que celle du dessin rigoureux de la bande dessinée, qui m'est imposé par le mode de reproduction. Mais si je n'avais pas cette obligation-là, je déciderais comme les dessins de la guerre du monde. Ce sont des lavis ou moins le fusain, le crayon, surtout le crayon.
Alors, beaucoup de choses dans cette archive de Jacobs, mais peut-être dans un premier temps, revenir, expliquer aussi pourquoi, au-delà de l'admiration, j'imagine que vous avez pour lui, revenir sur cet album de Blake et Mortimer intitulé Le Dernier Pharaon que vous avez dessiné sur un scénario de Thomas Gunzig et Jaco van Dormael. 4 ans de travail,
oui.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Françoise Cailloutin?
De savoir par quel bout prendre. En fait, donc, il avait laissé quelques lignes sur une idée que pourrait être un Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Donc, pour moi, c'était comme qu'il me tendait la main, parce que j'avais longtemps refusé de faire ça. Et alors, je savais pas, j'avais peur de m'approcher de son style, parce que je l'aimais trop, que j'avais surtout peur de le défigurer, de le caricaturer. Donc, je me sentais dans l'obligation de rester moi-même pour lui rendre hommage. Et en même temps, il fallait que les personnages, ressentent. Donc, j'ai un peu vieilli, donc j'ai un peu joué à travers tout ça. Et c'était ça, le plus difficile, c'est de trouver la bonne distance par rapport à ce que j'admire tant. Et ça m'a beaucoup touché, ce qu'il raconte, parce que, en fait, il a été extrêmement contraint par la technique et la ligne claire que Hergé lui a imposée. Et en même temps, il l'a fait si bien. C'est ça qui est absolument sidérant. Et je sais que quand moi je lui ai offert mon premier livre avec Claude Renard qui était au crayon, il a tout de suite il a dit j'ai toujours voulu faire ça. Et ça nous avait frappé parce que nous on faisait ça un peu parce qu'on savait pas faire autre chose à l'époque. Et lui il était très fasciné, il disait vous avez fait ce dont j'ai rêvé. Et donc voilà, c'était étonnant de commencer par la bande dessinée avec l'ombre quand même de Jacobs qui m'a beaucoup influencé, puis terminé par cet hommage.
Alors terminé, effectivement, puisqu'à la sortie de l'album, il y a trois printemps maintenant, 2019, vous avez annoncé mettre fin à votre carrière dans la bande dessinée. Il y a quelque chose qui s'est éteint de votre désir pour ce format?
Oh, il y a sans doute plein de raisons, sans doute confuses. Il y a le fait que je crois qu'à un moment donné, on a peur de se répéter et qu'on a peut-être dit ce qu'on avait à dire. Peut-être que ça reviendra d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas du tout pour l'instant, c'est pas du tout dans mes envies. Là,
j'ai quand même 40 ans de bande dessinée.
Ben quand même.
Entre le début et ce que vous annoncez comme la fin. Donc c'est
voilà. Et puis il faut redevenir débutant. Il faut redevenir avec des doutes. Vous savez, ce qui est beau chez Jacobs, c'est à quel point il doutait. C'est un homme qui était terriblement empreint de doutes. C'est pour ça qu'il faisait des calques. Il avait un processus de travail, mais terriblement laborieux. Et ça me touche énormément, ça, parce qu'il n'a pas de confiance en lui. Et
on en revient à la confiance.
Oui, 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 c'est vrai. Et donc, quelque part, j'aime bien ne pas avoir trop confiance et être toujours dans l'inquiétude. Et à force, quand on fait un métier trop longtemps, on commence à avoir pas mal de tics. Et donc, c'est agréable de retrouver une forme de virginité, de pouvoir se perdre. Mais j'adore la bande dessinée, c'est un médium magnifique. Il y a plein de gens qui le font avec talent, d'ailleurs.
Ça, c'est vrai. Mais c'est la question du plaisir, en fait, que j'entends derrière ce que vous dites, François Skeleton, c'est ne pas perdre le plaisir.
Oui, et le plaisir, c'est quelque chose, c'est un fil très particulier. C'est un fil, une tension qui est effectivement de chercher des endroits où vous êtes en état de découverte. Vous êtes en état de jubilation parce que vous êtes brusquement devant quelque chose que vous ne connaissez pas bien. Et quand vous le faites un métier depuis trop, peut-être trop longtemps, vous commencez à connaître un peu tous les trucs. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Mais est-ce que le plaisir, il s'est renouvelé pour vous au fil des années en renouvelant aussi les outils? Est-ce qu'il y a des périodes comme ça pour vous qui sont importantes?
Avec Benoît Peters, on a toujours essayé de changer de méthode. Avec Claude Renard aussi et mon frère Luc, chaque histoire était un autre format de papier, une autre technique. Parfois à la plume, parfois au pinceau, parfois en commençant par la couleur, pour essayer justement d'être toujours un peu en état de surprise, quoi, en état de
contre la routine, contre la recette.
Parce que c'est un métier où il faut mettre des cases les unes à côté des autres. Par définition, le public aime ça. Il aime retrouver ce qu'il a aimé. Donc, vous êtes dans une lutte permanente. Donc, on a changé de format de livre aussi, des récits plus longs. Mais bon, malgré tout, à un moment donné, vous sentez le métier. Vous commencez à avoir du métier.
Et puis, il y a cette très, très récente publication aussi, ce livre Mars, qui vient de sortir dans la collection des carnets de voyage de Louis Vuitton, avec des textes de Sylvain Tesson. Mais là, il y a une liberté, j'imagine, du format. Vous accomplissez presque le désir de votre père en devenant peintre, quasiment, la François Skeleton.
Ah, je crois pas que je suis peintre, à son grand désespoir, mais parce qu'il l'aurait vraiment souhaité. Mais non, c'était une belle aventure, parce que c'était une aventure, c'était une exploration, et je suis parti sans savoir. Ce que permet pas la bande dessinée. Il faut quand même un peu baliser, créer une architecture dramaturgique. Et là, je suis parti, fusil à l'arme, à l'épaule, très, très heureux de découvrir. Et donc, ça a été un moment très passionnant d'être un explorateur sur cette planète pour faire un livre de voyage. Et puis, à un moment donné.
D'accord, vous aviez juste le gabarit, le format.
Ouais. Voilà.
Et après, vous avez dessiné
en m'entourant de tout ce que les photos, de tout ce qui existait. Ma table était complètement, on me voyait plus derrière les livres. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, il y a une histoire, comme d'habitude, je peux pas m'en empêcher. Après tout, Ouais, voilà. Et donc, je suis allé avec beaucoup d'audace toquer à la porte de Sylvain Tesson, alors que j'avais déjà trois quarts des dessins. Et je me suis dit, je vais me faire jeter parce qu'il a d'autres choses à faire. Et alors, c'était formidable parce qu'il m'a accueilli très gentiment. Et surtout, après une demi-heure, c'était incroyable, il m'a dit, je vois ce qu'il faut faire. Alors, ça, c'était vraiment magnifique. Il avait vu le récit, qui était sans doute là, mais pas dans le bon ordre. Et il avait vu surtout ce qui allait donner du sens. Et alors, ça, c'était formidable. Après, on a travaillé ensemble, on a organisé, on a rajouté, on a enlevé. Mais c'était une belle aventure en termes d'une création comme ça, où vous vous dites, d'ailleurs avec l'éditeur aussi, avec le graphiste, avec tout le monde, on a cherché ce livre. Il n'était chez aucun de nous, mais il était au milieu de nous. Et ça, c'est un moment que j'adore. C'est des moments où le livre émerge lentement, sans que vous le prédestiniez, sans que vous le fabriquiez, en fait.
Ouais, mais c'est une histoire de collaboration et d'équipe. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps d'évoquer longuement cela, mais il y a aussi tout le travail sur les séries d'animation, votre travail aussi de collaborateur artistique, disons-le comme ça, ou directeur artistique sur certains films, en prise de vue réelle, dans le long métrage. Vous aimez travailler avec d'autres?
Oui, parce que d'abord, ils vous obligent à... Il vous pousse dans des coins dans lesquels vous n'auriez... Là, je travaille sur un film de science-fiction grecque.
Très bien.
Alors, c'est le projet le plus fauché du monde. C'est fait avec des bouts de ficelle. Et en même temps, j'ai une tendresse pour cette équipe. Alors voilà, je leur dis, écoutez, prenez ce que vous pouvez et je les aide comme je peux. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des tas d'endroits où il y a des aventures qui sont improbables, qui sont surprenantes et qui vous obligent à repenser un peu ce que vous êtes et d'être utile comme ça dans des petits coins du monde, c'est pas mal.
Alors, sur votre utilité, on y reviendra en fin de cette émission qu'on va conclure ensemble dans quelques minutes, Françoise Coyten. Auparavant, comme chaque soir, affaire à suivre.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail en région ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec David Ryland. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Alors, du coup, j'ai un Belge en face de moi, un Belge en ligne, puisque vous êtes natif de Bastogne, mais c'est bien l'Orchestre National de Metz que vous dirigez, donc le directeur musical depuis quelques années, on en parlera, mais qui donnera son concert du Nouvel An, d'abord à trois reprises dans la grande salle de l'Arsenal à Metz, 29-30 décembre, là c'est vous qui dirigez, et puis le 2 janvier ce sera Jacques Mercier, et puis petite tournée dans la région Messine, quatre dates, toutes dirigées par vous cette fois. Un mot tout d'abord, David Ryland, sur le contexte quand même de la pandémie, parce que l'année dernière, le concert du Nouvel An n'avait pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. Il avait été joué à huis clos, une captation, diffusion sur les réseaux sociaux, les chaînes des télés locales du Grand Est, comme pour beaucoup lieux de spectacle. C'est donc le grand retour du public pour cet événement à la fois traditionnel, attendu, retour ensemble des spectateurs avec les musiciens. Les annonces d'hier vous ont sans doute rassuré. Dans quel état d'esprit êtes-vous, David Ryland, par rapport à ces concerts qui arrivent?
Je crois que nous sommes vraiment tous impatients, de retrouver cette connexion avec le public, de retrouver cet échange d'énergie pendant le concert. C'est un programme qui se veut bien entendu festif et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir le partager, bien entendu.
Alors ce concert du Nouvel An, c'est une tradition fort ancienne, depuis 1939 à Vienne notamment. Comment est-ce que vous avez élaboré le programme de ce concert selon... Quel parti pris, puisqu'on va le comprendre, les balances entre musique française et danse germanique?
Effectivement, j'ai pour tradition, c'est la quatrième saison, de créer un face-à-face entre deux capitales culturelles. Donc après avoir voyagé donc Vienne, Italie, il était temps de donner la place à la France. Et donc nous avons une première partie qui est centrée autour d'œuvres de Bizet, de Massenet, de Saint-Saëns, ainsi que Offenbach, et une deuxième partie. Parce que Nouvel An oblige, avec quelques dorures viennoises, bien entendu.
Au-delà de ce concert, David Ryland, vous êtes le directeur musical et artistique de l'Orchestre National de Metz depuis septembre 2018. Votre mandat a été reconduit d'ailleurs jusqu'en 2024, au moins. Vous dirigez dans d'autres maisons, bien sûr, mais c'est à Metz que vous avez vraiment pu impulser vos désirs, votre vision de la musique. Comment l'expliqueriez-vous à nous qui connaissons peut-être pas très bien le programme qui est le vôtre à l'année?
Le programme à l'année, en fait, j'ai un peu comme pilier de ma conception artistique, esthétique pour l'orchestre, trois piliers fondamentaux. Tout d'abord le répertoire classique. Il me semble indispensable que nos orchestres symphoniques dits modernes, sur instruments modernes, puissent se réapproprier tout ce beau répertoire, notamment austro-hongrois, germano de la fin du XVIIIe siècle. La musique française, bien entendu. Là, j'hérite d'un très beau travail fait par Jacques Mercier, et puis c'est aussi une partie de mon ADN musical, et c'est aussi celui de l'orchestre avant tout, et puis la musique de notre temps. parce que c'est aussi une mission que l'on a, une obligation d'être au service de nos contemporains. Comme je me plais à répéter, on oublie souvent que même la quatrième de Brahms a été un jour de la musique contemporaine.
Oui.
Et voilà, donc ce sont en fait, pour être très rapide et très schématique, trois fils rouges dans ma programmation.
Mais c'est vrai que de passer d'un orchestre à un autre, puisque vous dirigez donc dans de nombreux lieux, David Hyland, comment se crée quand même cette relation au long cours avec les musiciens de Metz?
C'est justement ce qui m'est cher. Je crois qu'on est tous différents dans le métier. Il y a des sprinteurs et des marathoniens. J'aime justement ce travail au long terme, le fait de pouvoir construire, de pouvoir justement faire ce travail de fond qu'on ne peut pas réaliser quand on est 4 jours chef invité de passage. Et puis il y a toute cette relation, j'ai envie de dire épi-musicale, parce que l'humain prend la place, parce qu'on nourrit des relations humaines avec les musiciens. On connaît leurs forces, leurs faiblesses, mais aussi leurs fragilités. Parfois, à certains moments de l'année, il y a une interaction humaine, et ça m'importe beaucoup. J'ai besoin de cela pour pouvoir échanger, construire au quotidien et dans les programmes. Et puis de connaître vraiment, de prendre la température de l'orchestre, de savoir parfois l'orchestre est fatigué, on est face à de gros projets qui arrivent, pouvoir jouer avec toutes ces alternances d'émotions et qui enrichissent aussi le moment du concert.
Concert, en effet, puisque c'était ça l'objet de mon appel ce soir à vous. Merci David Hyland d'avoir échangé ces quelques minutes avec nous. L'Orchestre National de Metz donnera plusieurs concerts du Nouvel An, donc 3 reprises dans la grande salle de l'Arsenal, 29-30 décembre sous votre direction, et le 2 janvier sous celle de Jacques Mercier. Le concert qui part ensuite pour une petite tournée de 4 dates, toutes dirigées par vous. Merci David Hyland. Deux, trois minutes encore ensemble, François Skuyten, pour une ou deux dernières questions. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais vous avez été recruté l'année dernière pour faire partie de la Red Team, un nom bien français, un groupe de 10 auteurs de science-fiction très sérieux, chargé de la prospective pour le ministère des Armées. Alors, si j'ai bien compris, vous devez imaginer, donc vous mettre en image, les futures crises géopolitiques et ruptures technologiques impliquant les militaires. Un travail top secret, ça?
Oui, enfin en partie, parce qu'il y a des tas de scénarios qui sont sur le net, qui sont consultables. Et il y a même un livre qui va sortir bientôt, qui va raconter un petit peu ce qu'on a produit, et qui était là effectivement pour un peu faire peur, ouais. Faire peur à l'armée, entre guillemets, parce que bon, il est certain qu'on est très très prospectif. On est sur 2040, 2060, et c'est une aventure très intéressante parce que vous êtes vraiment au cœur de toutes les questions que peuvent se poser aujourd'hui une nation face à un monde qui va très vite, face à des techniques, et donc on est entouré de scientifiques et c'est une expérience très très troublante. Très troublante, mais très enrichissante et très bousculante, en fait.
Mais ça ne doit pas aider à forcément avoir le monde plus rose.
Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais comme je suis un peu utopiste, c'est un peu l'antidote.
C'est pour ça qu'ils vous ont appelé aussi, peut-être.
Oui, sans doute. Mais c'est bien parce que, après tout, moi je crois beaucoup à utopie-dystopie. Je pense qu'il faut absolument revenir à une projection sur le futur et se remettre à faire rêver le monde et à faire rêver nos enfants. Et en même temps, il faut être très lucide et très conscient de tout ce qui peut arriver. Et c'est dans cette tension que je crois qu'aujourd'hui, on doit travailler tous.
Merci François Skuyten d'avoir été cet invité, toujours passionnant, à écouter, surtout à lire évidemment, et à regarder 2 publications récentes, Mars avec Sylvain Tesson aux éditions Louis Vuitton et Bruxelles, un rêve capital avec Benoît Peters chez Casterman, et puis allez, si vous pouvez, sur le parvis de Notre-Dame pour voir les dessins, notamment de François Skuyten, pour cette carte blanche, le chantier de Notre-Dame en bande dessinée. ou en images. Ce serait plus logique de dire cela pour vous. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur franceculture.fr ou via l'application Radio France. Émission préparée par Aïssa Toundoy, Boris Pino, Anouk Minaudier, Anna Baron, Juliette Hamon et Lucille Como.
Affaires culturelles avec Merlin, la sélection audio de Bayard et Radio France pour les enfants de 3 à 10 ans à écouter sur une enceinte. Informations sur hello-merlin.com.